Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat, s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. Nous sommes ici dans l'auditorium du collège Louise Michel à Ganges et nous sommes ici pour parler d'Arthur Rimbaud. On a préparé cette émission avec la classe de Madame Cuchard-Bouvier et avec la responsable du centre de documentation de ce collège, Anita Messaoui. Peut-être j'en profite aussi pour dire que cette opération elle a été aidée par la direction départementale du livre et de la lecture. C'est une première pour nous, on est très fiers de pouvoir la faire avec vous. Et bien, je vous demandais d'abord d'applaudir vos camarades sur ce travail. Voilà. Et on était en train de raconter, on en est resté à la première émission, à l'arrivée de Rimbaud, on va dire pas une arrivée définitive, mais enfin c'est plus une fugue maintenant qu'il fait, c'est vraiment, il essaye de s'installer dans le milieu littéraire et de sa rencontre avec Verlaine. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, Mélissa et Emeline, vous voulez nous parler un petit peu de cette liaison quand même très particulière entre Rimbaud et Paul Verlaine?
Ben déjà, ils se sont rencontrés en septembre 1871.
Et oui, alors, qu'est-ce qui se passe en France? Ben, c'était la guerre, puis la Commune.
Oui, c'est-à-dire qu'on a, on a oublié de dire que Rimbaud avait probablement été à Paris pendant la Commune.
Oui,
mais
alors
on n'en est pas sûr.
Voilà, ça c'est un petit mystère. Mais moi, je vous disais ça simplement parce que ça explique beaucoup de choses. Verlaine a été soupçonné d'avoir participé à la Commune. La Commune a été réprimée dans le sang, très violemment, 200 000 morts. Vous savez que votre collège Louise Michel porte le nom d'une communarde, hein, d'une femme qui a été un des leaders de la Commune et qui a payé sa participation par une très longue déportation en Nouvelle-Calédonie, au bagne. Tous les gens qui avaient de près ou de loin participé à la Commune étaient très très sérieusement ennuyés. C'est-à-dire qu'ils quittaient, ils étaient virés de leur boulot. Et c'est le cas de Verlaine, enfin, qui a quelques ennuis avec les autorités. C'est
enfin, il a des ennuis avec les autorités parce qu'il n'a pas quitté son poste pendant la Commune. Il est resté employé à l'hôtel de ville. Et donc, ça a été considéré comme un petit peu
louche
ou partisan pour les communards.
Voilà. Donc, et alors bon, on était en, excusez-nous de cette parenthèse, hein, donc c'était pas, ça parle pas directement de la liaison avec Verlaine, mais ça explique aussi que Verlaine, d'ailleurs, va se servir de ça comme d'argument dans ses allers-retours entre sa femme et Rimbaud. Donc, qu'est-ce que c'est cette relation entre eux?
Ben, ils ont une relation amoureuse, mais surtout sexuelle, et en même temps, c'est du travail.
Bon, le travail, on peut bien voir ce que c'est. Bon, c'est-à-dire
oui, par rapport avec les poèmes et tout ça.
Voilà, parce qu'ils se sont découverts. C'est vrai que Verlaine est nettement au-dessus de la plupart des poètes de son époque du point de vue de la musicalité. Et Rimbaud a découvert ses poèmes bien avant de le connaître. Donc il est très, très impressionné par Verlaine. Mais Verlaine aussi est très impressionné par Rimbaud parce qu'il a de l'avance sur lui. Alors vous dites amoureuse et sexuelle. Bon, sexuelle certainement, c'est quelque chose qui est admis hein, et qu'ils affichent même... de façon assez provocante, parce qu'il y a une part de provocation là-dedans.
Oui.
Et amoureuse, c'est une histoire d'amour et haine, on va dire, parce que c'est quelque chose qui est très violent. Et alors, la situation de Verlaine, c'est quoi? Oui, Emeline,
Verlaine, il est marié, non? Il vient de se marier.
Avec Mathilde Mottet. Et
il vient d'avoir un enfant
voilà.
Aussi.
Oui.
Voilà. Au moment où il rencontre Rimbaud.
Voilà.
Bon, alors, qu'est-ce que ça bouleverse chez lui? Eh ben, il va quitter Mathilde.
Oui, voilà.
Et il va partir avec Rimbaud.
Ouais.
Donc ça va poser quand même des problèmes, quand même.
Oui.
Alors, ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est que ça arrive au moment... on peut faire un parallèle, parce que le père de Rimbaud est parti, lui aussi, le jour de sa naissance. Et lui, Rimbaud, il fait le coup d'emmener Verlaine juste un petit peu, quelques jours avant la naissance du petit Georges.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont? Ils restent à Paris
Ils partent à Londres.
Non. Ils partent d'abord à Bruxelles.
Voilà, ils vont à Bruxelles d'abord.
Mais d'abord, ils traînent à Paris un bon bout de temps. Hein, d'abord. Oui. Alors bon, Verlaine, il est un peu embarrassé par cet amant qui est rue dans les brancards, qui est un vrai pique-assiette. Il va d'abord lui trouver une petite piole au Quartier Latin pour essayer de le caser. Mais Rimbaud, lui, il vient partout. Lui, il s'invite partout. Il revient chez les Motets. Je ne veux pas dire de mots grossiers, mais il est très, très mal. Il fait des esclandres chez eux.
Mais d'ailleurs, il le chasse, les Motets, au bout d'un certain temps. Donc, il doit trouver effectivement un toit ailleurs. Et donc, toute la confrérie autour de Verlaine essaye quand même de loger Rimbaud ici ou là, à gauche ou à droite.
Mais alors, moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous pensez que Rimbaud se soit tourné vers un homme, quoi? Il y a aussi quelque chose qui n'est pas simplement sexuel, je pense. Enfin, l'admiration qu'ils ont. Les femmes, c'est quoi à l'époque?
À l'époque, les femmes, elles étaient un peu prises comme des boniches, on va dire. Et Rimbaud, il ne supportait pas ça.
Oui, c'est vrai. Il dit qu'il faut réinventer l'amour. Et peut-être qu'il ne trouve pas non plus de ce côté-là. Enfin, que non, c'est très difficile. Quelle femme vous lui auriez vue à Rimbaud? Allez, choisissez-lui une femme.
Une qui ne se laisse pas faire.
Une qui ne se laisse pas faire.
Ouais. Absolument. Et peut-être aussi une qui soit... je sais pas, vous voyez un
personnage, en fait.
Hein, quelqu'un qui aurait aimé les arts, enfin, et ça, il le dit très bien dans le poème qui va venir après. Peut-être on va le. Il y a d'autres choses peut-être à dire quand même sur cette relation, enfin sur l'histoire de cette relation.
Bon, ils se rencontrent aussi sur une sensibilité proche et commune, Verlaine et Rimbaud. Verlaine, il a écrit déjà des choses, les poèmes saturniens, il a déjà écrit ça, peut-être.
Oui, hein, oui, si, si, ça, il l'a lu. Les fêtes galantes, voilà. Ça, Rimbaud a lu. Et en plus, et Verlaine tellement admiratif qu'il recopie même les textes de Rimbaud. Mais bon, vous vous souvenez du film, peut-être un petit peu, il y a quelques scènes quand même assez terribles entre Rimbaud et Verlaine. Il y en a quand même un qui domine l'autre, très nettement.
Rimbaud domine Verlaine.
Verlaine, vous pouvez nous parler un peu de son caractère à Verlaine, c'est quoi comme...
Verlaine, il est peut-être un peu craintif, un peu pas veule, parce que veule, c'est peut-être un terme un peu trop fort. Mais d'abord, il est attaché, il a une famille. Il est attiré par Rimbaud parce qu'il voit peut-être en lui quelqu'un pour qui la liberté est fondamentale. Donc la liberté, c'est aucune attache, la possibilité de partir quand on veut, où on veut, de travailler, de ne pas travailler. Alors que Verlaine, lui, il est un peu engoncé dans un habit. Il a 10 ans de plus. Hein.
Et puis, Verlaine est un personnage très paradoxal, enfin double, parce que Verlaine est quelqu'un qui peut être très violent, puisque il y a des scènes dans lesquelles, il y a une scène notamment où il traîne Mathilde par les cheveux, il la menace de l'étrangler, il menace même d'attenter à la vie du petit. Normalement, il est complètement bourré. Il est très violent par certains côtés et il est rongé de culpabilité en même temps. Il se sent très coupable de quitter sa femme. Je pense que Verlaine, lui, par contre, a une vraie attirance pour les hommes, une attirance physique, hein, puisqu'il a déjà eu probablement une aventure avant de rencontrer Rimbaud. Et plus tard dans sa vie, il va se passer la même chose quand il sera professeur à Rethel, justement, dans les Ardennes.
Et alors, cette liaison amoureuse, poétique et libre entre Verlaine et Rimbaud, comment elle va se terminer?
Verlaine, il va... Ah oui, il va de bistrot en bistrot, et puis il y a plein de disputes et tout. Et donc Rimbaud, il retourne à Paris, mais Verlaine, il le suit, et il achète un revolver, et il tente de le tuer le 10 juillet.
Le coup de feu, c'est en Belgique. Hein. C'est-à-dire qu'avant, ils sont en Angleterre.
Oui, avant, ils sont
une première saison en Angleterre, où ils essayent de vivoter en donnant des cours, etc. Mais bon, c'est toujours des beuveries, des scènes assez violentes. Et il y a cette fameuse scène que vous avez peut-être vue dans le film, où Verlaine rapporte un poisson qu'il a acheté au marché, et où Rimbaud l'agonie complètement. Vous n'avez pas vu cette scène? Rimbaud est tellement violent avec Verlaine que Verlaine prend le poisson, le bazarde dans une vitre et décide de partir, quoi. Et c'est là que Rimbaud, tout d'un coup, s'effondre en disant « Paul, ne me quitte pas », etc. Il lui écrit une lettre presque d'excuse, enfin en lui disant « Si je suis comme ça, parfois un peu acariâtre, c'était une mauvaise plaisanterie de ma part ». Et ensuite, ils vont se retrouver, effectivement, à Bruxelles. Et là...
Ah, c'est Verlaine qui tire sur Rimbaud.
Voilà, il le blesse, mais il veut le tuer. Hein.
Il veut le tuer.
Hein. Il le rate. Et alors, à partir de ce moment-là, Verlaine, on l'arrête. Et il passe 2 ans en prison, en Belgique. Et Rimbaud s'en va. Et d'ailleurs, Rimbaud le dédouane, le disculpe. Il donnera un témoignage devant la justice belge en disant que Verlaine a fait ça dans un coup de folie, qu'il ne faut pas lui en vouloir. Mais malgré tout, Verlaine sera condamné à 2 ans de prison.
Ouais.
Voilà, peut-être qu'on va écouter...
Eh bien, on va peut-être écouter ce poème des Sœurs de la Charité qui parle vraiment du rapport avec les femmes. Et c'est Valérie qui va nous le dire.
Le jeune homme, dont l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de 20 ans qui devrait aller nu, écu, le front cerclé de cuivre, sous la lune, adoré dans la Perse, un génie inconnu. Impétueux avec des douceurs virginales et noir, fier de ses premiers entêtements, pareil aux jeunes mères, pleurs de nuits estivales, qui se retournent sur des lits de diamants. Le jeune homme, devant les laideurs de ce monde, tressaille dans son cœur largement irrité et plein de la blessure éternelle et profonde, se prend à désirer sa sœur de charité. Mais, ô femme, monceau d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais la sœur de charité. Jamais, ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, ni doigts légers, ni seins splendidement formés. Aveugle, irréveillé aux immenses prunelles, tout notre embrassement n'est qu'une question. C'est toi qui peins nous, porteuse de mamelles. Nous te berçons, charmante et grave passion. Tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances et les brutalités souffertes d'autrefois. Tu nous rends tout, aux nuits, pourtant sans malveillance, comme un excès de sang épanché tous les mois. Quand la femme portait un instant l'épouvante, amour, appel de vie et chanson d'action viennent la muse verte et la justice ardente, le déchirer de leur auguste obsession. Ah, sans cesse altéré des splendeurs et des calmes, délaissé des deux sœurs implacables, geignant avec tendresse après la science au bras albe, il porte à la nature en fleurs son front saignant. Mais la noire alchimie et les saintes études répugne aux blessés, sombre savant d'orgueil, il sent marcher sur lui d'atroces solitudes, alors, et toujours beau, sans dégoût du cercueil, qu'il croit aux vastes fins, rêves ou promenades, immenses, à travers les nuits de vérité, et t'appelle en son âme et ses membres malades, ô mort mystérieuse, ô sœur de charité.
Il dit, je n'aime pas les femmes. L'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté. Il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes avec les signes du bonheur, dont, moi, j'aurais pu faire de bonnes camarades, dévorer tout d'abord par des brutes sensibles, comme des bûchers. Je l'écoute, faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Je suis de race lointaine. Mes pères étaient scandinaves. Ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang. Je me ferai des entailles par tout le corps. Je me tatouerai. Je veux devenir hideux, comme un mongol. Tu verras, je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais des bijoux. Je ramperai et me tordrai sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang partout. Jamais je ne travaillerai. Plusieurs nuits, son démon me saisissait. Nous nous roulions, je luttais avec lui. Les nuits, souvent, ivres, il se poste dans des rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. On me coupera vraiment le cou. Ce serait dégoûtant. Oh, ces jours où il veut marcher avec l'air du crime. Parfois, il parle, en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent, certainement des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous envirions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la pitié d'une mère méchante pour les petits-enfants. Il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. Il feignait d'être éclairé sur tout, commerce, art, médecine. Je le suivais. Il le faut.
L'homme aux semelles de vent, comme l'appelle Verlaine, multiplie les voyages et les petits boulots à travers l'Europe. Il séjourne à Londres avec Germain Nouveau. Puis, il va en Allemagne, en Autriche, en Hollande, en Suède, au Danemark, en Suisse, ainsi qu'en Italie.
Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Pourquoi il s'en va?
Parce qu'il en avait marre.
Il en avait marre et je crois qu'il veut aussi...
Il voulait arrêter la poésie, en fait.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il veut apprendre aussi les langues.
Les langues, voilà.
Et donc, ça fait partie de ses objectifs de voyage, ça. Apprendre l'allemand, apprendre l'espagnol, apprendre le hollandais, etc.
C'est une des raisons. En fait, il voudrait tout savoir. Oui, pas seulement les langues. Il voudrait... Enfin, il va... C'est comme une maladie de tout savoir qu'il prend. Peut-être qu'il faudrait dire que Germain Nouveau, c'est un poète aussi.
Ah oui,
Germain Nouveau est un poète méconnu de la fin du 19e. Et il va se conduire avec Germain Nouveau exactement, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Rimbaud essaye de taper tout le monde. Quand il a son histoire avec Verlaine, il essaye de faire chanter Verlaine. Chanter au sens du maître chanteur, quoi, de lui soutirer de l'argent, hein, en disant que... Parce que Verlaine, entre-temps, a trouvé un boulot en Angleterre dans comme prof de français. Et Rimbaud le menace de dénoncer leur relation si Verlaine ne lui envoie pas du fric.
Et à l'époque, l'homosexualité était un délit. Donc si Verlaine était dénoncé, il retournait en tôle.
Et il fait le même coup. Enfin, avec Germain Nouveau, il est intéressé parce que Germain Nouveau a hérité d'une vieille tante. C'est très ambigu parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis je pense que Germain Nouveau est un grand poète et Rimbaud le sent aussi. Mais enfin, il y a toujours ce côté très double chez lui.
Rimbaud vit à Chypre où il dirige une équipe d'ouvriers qui exploite une carrière. Il ne retournera pas en Angleterre car, après avoir étudié l'allemand depuis le début de l'année 1875, il part pour l'Allemagne le 13 février pour se rendre à Stuttgart.
En fin mars, il quitte Stuttgart avec maintenant l'envie d'apprendre l'italien. Pour ce faire, il traverse la Suisse en train et par manque d'argent franchit la Saint-Gothard à pied. À Milan, une veuve charitable lui offre opportunément l'hospitalité. Il y reste une trentaine de jours.
Oui, c'est ça. En même temps, il voyage beaucoup, il tape tout le monde et puis il a de la chance, quoi.
Il prend des risques aussi, il prend des risques énormes. Parce qu'il y a peut-être une petite chose qu'il faudrait dire sur l'histoire de Chypre. Il semblerait, alors là, il a dirigé un espèce de chantier de construction et il semblerait qu'il ait tué un ouvrier d'un jet de pierre. Peut-être pas volontairement, mais enfin ça expliquerait son départ précipité de Chypre. Après, il y a effectivement cette traversée du Saint-Gothard, dont il parle d'ailleurs, parce que c'est un truc terrible.
Oui.
C'est une montagne enneigée et il se retrouve avec de la neige jusqu'en haut des cuisses, quoi. C'est-à-dire une épreuve de fou. Parce que là, on voit déjà le Rimbaud marcheur, le Rimbaud qui est complètement obsédé par des kilomètres et des kilomètres de marche à pied tout le temps pour découvrir. Et puis, quand il va se rendre en Italie, avant, il y a deux voyages en Italie. Il y a un premier dans lequel il tombe d'abord d'insolation, parce qu'il n'a pas bouffé pendant des jours. Il a pris le soleil et on le rapatrie à Marseille, quoi. Et ensuite, il va effectivement à Rome, parce que là, c'est pourquoi, en fait, qu'il va en Italie. C'est aussi parce qu'il veut se faire embaucher dans les milices carlistes, c'est-à-dire dans les armées que lève le roi d'Espagne, Charles. Carlos plutôt, et c'est là qu'il se fait ramasser. Alors effectivement, s'il y a une femme que Rimbaud a rencontrée, c'est peut-être cette fameuse veuve de Rome dont on ne sait rien, et peut-être quelqu'un un jour nous racontera cette histoire.
Après ses aventures épastrouillantes, il annonce à ce dernier son intention d'aller s'engager dans les carlistes, histoire d'aller apprendre l'espagnol, mais ne la concrétisera pas. Il fera son retour à Charleville mi-août, où, entre-temps, sa famille a changé de logement.
Oui, alors c'est ça qu'il faut remarquer aussi, c'est-à-dire qu'il se balade de pays en pays, mais à chaque fois, il revient à Charleville. Hein, c'est quelque chose comme une attirance. Il revient systématiquement auprès de sa mère, auprès de ses frères et sœurs.
Dans la même année, à l'instar de son ami Delahaye, Rimbaud envisage de passer son baccalauréat de sciences avec l'objectif de faire polytechnique. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'à 20 ans, c'est l'âge limite pour y accéder. Et en 1875, il a 21 ans.
Alors voilà un autre étonnement. Rimbaud qui abandonne la poésie, qui était latin, grec, littérature. Et brusquement, il dit non, tout ça, je passe à autre chose. Je veux faire des sciences et passer mon baccalauréat scientifique.
Le 18 décembre, sa sœur Vitali meurt à 17 ans et demi d'une synovite tuberculeuse. Le jour des obsèques, les assistants regardent avec étonnement le crâne rasé du fils cadet. Après avoir cogité à quelques solutions pour découvrir d'autres pays à moindre frais, il reprend la route en mars 1876 pour se rendre en Autriche. Le périple envisagé tourne court. À Vienne, dépouillé par un cocher, puis arrêté pour vagabondage. Il est expulsé du pays et se voit contraint de regagner Charleville, sa ville natale.
Donc aux environs de mai, il repart cette fois en direction de Bruxelles, en Belgique. Toujours est-il qu'il se présente au bureau de recrutement de l'armée coloniale néerlandaise pour servir dans les colonies indiennes. Muni d'un billet de train, aboutit après un contrôle à la garnison de Rotterdam, dans la caserne d'Harderwijk, le 18 mai où il signe un engagement pour 6 ans. Le 10 juin, Rimbaud et les autres mercenaires, équipés, formés, riches de leurs primes, à destination et chargés de réprimer une révolte dans l'île de Sumatra, sont transportés à Den Helder pour embarquer à bord du Prince van Orange.
Ah oui, mais alors, il s'engage dans l'armée hollandaise, mais pourquoi il est militariste? Pourquoi il va là-bas, d'après vous?
Il a envie de quitter le thème de la poésie et il a envie de voyager.
Et pour gagner des sous aussi.
C'est ça les deux raisons. Il veut voyager et puis on lui offre une prime importante. D'ailleurs, quand il s'engage, on lui offre la moitié de la prime à l'engagement et puis normalement l'autre moitié lorsqu'ils arriveront sur place. Et puis le lendemain, il s'en va. Donc il est porté déserteur le lendemain de la fameuse prime.
Une fois qu'il a l'argent.
Voilà. Mais entre-temps, il a pris soin dans les derniers jours où ils vont arriver sur le lieu du champ de bataille de repérer tous les villages par où il devra passer. Il s'est fait déjà son petit itinéraire de fuite avant. On peut mettre ça en relation avec l'histoire. Enfin, on ne sait jamais, on n'a jamais su si Rimbaud a vraiment participé à la Commune, mais s'il y avait participé, il se serait embauché dans la garde nationale pendant une très courte période de 15 jours. Et il aurait, dans cette période-là, été à la caserne Babylone, qui était une caserne à Paris. Et il aurait assisté, ou peut-être il aurait subi, une agression sexuelle dans cette caserne. C'est très important parce que c'est de cet épisode, que serait venu un texte qui est très important et qui est, je crois, qui s'appelle « Un cœur supplicié ».
Quand il quitte l'Indonésie, il revient à Charleville, encore, c'est ça?
Voilà, il revient toujours à Charleville.
Il revient à Charleville. On va peut-être écouter ce qu'a dit René Char.
Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes 18 ans réfractaires à l'amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris, ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardennaise un peu folle, tu as bien fait de les éparpiller au vent du large, de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. Tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets des pisse-lire pour l'enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples. Cet élan absurde du corps et de l'âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater. Ouais, c'est bien là la vie d'un homme. On ne peut pas, au sortir de l'enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Nous sommes quelques-uns à croire, sans preuve, le bonheur possible avec toi.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur.
J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules démarrées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots, qu'on appelle rouleur éternel de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil nié des falots.
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et de vomissures me lava, disperse en gouvernail et grappin.
Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend.
Où teignant tout à coup les bleuités délire, et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour.
Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir.
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareil à des acteurs de drame très antiques. Les flots roulant au loin leurs frissons de volée.
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisé montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs.
J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs.
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux.
J'ai vu fermenter les marées énormes, nasses ou pourries dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants.
Glacier, soleil d'argent, flona creux cieux de braise, échouage hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévorés des punaises, choient des arbres tordus avec de noirs parfums.
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades, du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants, des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants.
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes. Et je restais ainsi qu'une femme à genoux.
Presque île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux claboudeurs aux yeux blonds, et je voguais. Lorsque, à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir, à reculons.
Après être retourné à Charleville-Mézières en automne 1880, Il repart avec son camarade grec, Constantin Rigas, pour former une caravane pour transporter des marchandises pour le Harar. Donc le Harar, c'est à la fois une région et une ville d'Abyssinie, qui est l'Éthiopie actuelle.
Je crois que juste avant, il a quand même débarqué à Aden. Et à Aden, il rencontre là Bardet, qui lui fera connaître par ses différents engagements, ses différents emplois qu'il occupera dans le commerce, soit à Aden, soit au Harar. Voilà, il ne faut pas oublier cette étape d'Aden.
Juste deux mots sur Aden, c'est que Aden, c'est une cuvette qui est bâtie dans un endroit, un ancien volcan, et c'est insupportable de chaleur. La première année qu'il passe là-bas, elle est épouvantable. Et quand il va partir, justement, il attend de partir ailleurs où il va pouvoir respirer un petit peu. Parce que l'Éthiopie à l'époque, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, c'est une Éthiopie qui est apparemment très verte encore. Et quand il va arriver au Harar, là,
il respire.
Parce que ça ne l'empêchera pas de dire après que c'est un endroit infâme, que c'est un vieux trou, comme il dit, de tous les endroits où il va.
Donc il doit parcourir 350 km, traverser le territoire des Issas, qui est réputé hostile, puis entrer dans celui des Galas, où les attaques ne seront plus à craindre. Les portes de la cité fortifiée de Harar seront franchies en décembre. Donc, je cite la lettre à sa famille du 13 décembre 1880. Après 20 jours de cheval à travers le désert somali. Ils sont accueillis dans l'agence Bardet, qui est tenue par Alfred Bardet, et qui est une sorte de commerce. Et ils sont accueillis par l'agent Pinchard. La tenue des comptes et la paie des démarcheurs lui sont attribuées. Et le 15 février 1880, il relate aux siens en quoi consiste le commerce. Des pots, du café, de l'ivoire, de l'or, des parfums, encens, muc, etc. Il leur fait part aussi de ses déceptions. Je n'ai pas trouvé ce que j'ai présumé. Je compte trouver mieux un peu plus loin. Il se plaint aussi d'une maladie qui l'aurait pincé.
Il va toujours essayer d'aller plus loin, parce que plus loin, il y a forcément quelque chose qui doit l'attendre. Et puis plus loin, il y a l'ennui. Plus loin, il y a la maladie. Et donc, il faut à nouveau partir plus loin. C'est un cercle et un cycle sans fin.
Puis c'est important ce que vous nous avez dit sur le contenu de ce commerce. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, il a un peu une espèce de chef d'équipe, de chef magasinier qui s'occupe de tenir les comptes des stocks, etc. Et puis ça l'ennuie aussi. Il a envie de bouger et il va aller sur le terrain, comme on dit, beaucoup avec dos de cheval. Il va passer sa vie, toute la décennie qui vient, c'est marcher et faire du cheval.
En mars, Pinchard est atteint de paludisme et il s'en va. Rimbaud assure l'intérim du comptoir jusqu'à l'arrivée d'Alfred Bardet. Il arrive avec l'idée d'ouvrir un magasin de produits manufacturés. Son patron l'envoie faire des expéditions commerciales à travers l'Afrique dès le mois de mai. Ses campagnes dans des régions jamais explorées par les Européens pour des trocs s'avèrent risquées. À chaque fois, il revient épuisé et Rimbaud est à nouveau frappé de fièvre tout l'été. Le 22 septembre, déçu de ne pas avoir été promu directeur de l'agence, il annonce à sa famille qu'il a, je cite, donné sa démission il y a une vingtaine de jours. Cependant, son contrat s'achève dans 2 ans. Suite au missive de Roche, concernant sa période militaire qui n'est pas réglée, il fait valoir sa situation auprès du consul de France à Aden.
Il ne s'est jamais acquitté de ses obligations militaires et ça va devenir une obsession tout au long de sa vie, alors que de toute façon, même au moment où il va être mourant, il sera encore obsédé par cette histoire. Et autour de ce petit truc de rien du tout, se greffe une histoire de... Enfin, comment dire, il va avoir des griefs à l'égard de sa mère qui ne s'occupe pas de cette affaire-là. Il leur dit « Mais occupez-vous donc de régler mes problèmes de papier militaire. » Il a essayé de monter sa propre affaire. Hein, il a donné sa démission, mais comme vous l'avez bien dit... Il a un contrat qui dure encore 2 ans, mais je crois que les frères Bardet ne lui en tiennent pas rigueur.
Donc, de son côté, le patron Alfred Bardet part pour le siège lyonnais de la société aux environs du début octobre. Donc, son frère devait venir le remplacer, mais Rimbaud gère à nouveau le comptoir en l'attendant. Rimbaud quitte le Harar en décembre.
Et qu'est-ce qui va alors? C'est là que ça va se passer la grande affaire de la vie de Rimbaud. Enfin, ce qu'il croit être la grande affaire de sa vie, je parle sur le plan argent.
Après le retour d'Arthur Rimbaud à la factory d'Aden, c'est au tour d'Alfred Bardet de revenir en février 1882, suite au départ de Monsieur Dubarc pour la France à Lyon. Donc Rimbaud en vient donc à seconder son patron durant toute l'année. En septembre, il commande tout le matériel nécessaire pour faire des photographies, car il compte partir pour le Shoah, en Abyssinie, afin de réaliser un ouvrage sur cette contrée inconnue, avec cartes, gravures et photographies, et le soumettre à la Société de géographie de Paris, dont Alfred Bardet est membre.
Alors après avoir été commerçant, caravanier, il devient géographe et explorateur.
En fait, je pense qu'il continue à être tout ça à la fois, parce qu'en fait, il ne va pas du tout abandonner le commerce. Il n'arrête pas de demander à qu'on lui envoie, il écrit à sa mère, envoyez-moi tel matériel, des trucs très précis, des listes de bouquins, tout savoir sur toutes sortes de domaines, des domaines industriels, métallurgiques, photographiques. Il va avoir un super appareil photo, le dernier cri de l'époque, qui lui coûte une fortune, d'ailleurs, je crois, plusieurs milliers de francs, et il ne s'en servira pas. Et alors donc ?
Donc, à défaut de choix, un retour à Harare est prévu pour janvier 1983. Et il annonce aussi à sa famille le 3 novembre. Donc, le début de l'année 1883 est marqué par un rixe entre Rimbaud et un magasinier indigène qui lui manque de respect. Ce dernier porte alors plainte pour coups et blessures. Rimbaud évite la condamnation grâce à l'intervention du vice-consul, à qui il avait aussitôt écrit pour résumer les faits et solliciter sa protection. Donc c'est la lettre à Monsieur de Gaspari, le vice-consul de France à Aden, et elle est datée du 28 janvier 1883.
Alors il continue les rixes, il a des rixes, et il continue à avoir des protections. Donc il arrive quand même à cheminer.
C'est la société coloniale française de l'époque, mais en même temps, il faudrait dire pour tempérer un peu la chose. Bon, on sait que Rimbaud, c'est un type qui a le sang vif, enfin, qui peut être capable, qui est assez réservé, qui a un humour très grinçant. Dans les témoignages des gens qui l'ont côtoyé disent que parfois, il peut faire rire beaucoup. Il a un humour extraordinaire. Lui, il est toujours très sombre, mais il fait rire tout le monde. Et puis, de temps en temps, il s'emporte et il pète un plomb, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, ça lui arrive à Chypre quand probablement, il tue cet ouvrier. Et aussi, avec à Paris, évidemment, avant, mais là, au Harare, ça lui arrive encore. Mais en même temps, on peut dire aussi qu'il y a des témoignages en sa faveur du côté d'un homme qui a beaucoup de compassion. On le dit aussi, ça, c'est les quelques religieux qu'il fréquente. Il dit, la seule chose qu'il ne faisait pas avec dérision, c'est, disons, sa compassion avec les autres.
Je crois qu'il reviendra donc un peu plus tard au choix pour un petit peu faire le marchand d'armes. Mais peut-être en attendant, on pourrait écouter Louise.
Dans un grenier où je fus enfermée à 12 ans, j'ai connu le monde. J'ai illustré la comédie humaine. Dans un cellier, j'ai appris l'histoire. À quelques fêtes de nuit, dans une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris, on m'a enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure cernée par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon illustre retraite. J'ai brassé mon sang, mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe et pas de commission. La soirée frissonnante trouve notre brique en large en face de cette villa et de ses dépendances, qui forment un promontoire aussi étendu que l'Épire et le Péloponnèse, ou que la grande île du Japon, ou que l'Arabie.
Des fanins qu'éclairent la rentrée des théories, d'immenses vues de la défense, des côtes modernes, des dunes illustrées de chaudes fleurs et de bacchanales.
De grands canaux de Carthage et des embankments d'une Venise louche. De molles éruptions d'Etna et des crevasses de fleurs et d'eau des glaciers.
Des lavoirs entourés de peupliers d'Allemagne, des talus de parcs singuliers penchant des têtes d'arbres du Japon.
Et les façades circulaires des Royals ou des Grands, de Scarborough ou de Brooklyn. Et leurs railways flanquent, creusent, surplombent les dispositions dans cet hôtel.
Choisi dans l'histoire des plus élégantes et des plus colossales constructions de l'Italie, de l'Amérique et de l'Asie, dont les terrasses à présent pleines d'éclairages, de boissons et de brises riches,
sont ouvertes à l'esprit des voyageurs et des nobles qui permettent aux heures du jour à toutes les tarentelles des côtes.
Et même aux ritournelles des vallées illustrent l'art de décorer merveilleusement des façades du palais.
Promontoire.
Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu, rumeur des villes, le soir et au soleil,
et toujours. Assez connu, les arrêts de la vie, aux rumeurs et visions. Départ dans l'affection et le bruit neuf.
J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. Trois fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent, la violence du venin tord mes membres, me difforme, me terrasse. Je meurs de soif. J'étouffe, je ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève. Je brûle comme il faut. Va, démon. J'avais entrevu la conversation au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision, l'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes. C'était des millions de créatures charmantes, un suave concert spirituel. La force et la paix, les nobles ambitions, que sais-je ? Les nobles ambitions. Et c'est encore la vie. Si la damnation est éternelle, un homme qui veut se mutiler est bien d'aller. N'est-ce pas ? Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre, pauvres innocents. L'enfer ne peut attaquer les païens. C'est la vie encore. Plus tard, les délices de la damnation seront plus profondes. Un crime, vite, que je tombe au néant de par la loi humaine. Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte, le reproche, ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez. Des erreurs comme souffle, magie, parfum faux, musique puérile. Et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice. J'ai un jugement sain et arrêté. Je suis prêt pour la perfection. Orgueil. La peau de ma tête se dessèche. Pitié. Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif. Ah, l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres. Le clair de lune quand le clocher sonnait 12. Le diable est au clocher à cette heure. Marie, Sainte Vierge, horreur de ma bêtise. Là-bas, ce ne sont pas des âmes honnêtes qui me veulent du bien. Venez, j'ai un oreiller sous la bouche. Elles ne m'entendent pas. Ce sont des fantômes. Puis, jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas. Je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu. Plus de fois en l'histoire. L'oubli des principes. Je m'enterrai. Poète et visionnaire seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche. Soyons avares comme la mer.
Ah ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse. L'enfer est certainement en bas. Le ciel est en haut. Extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. Que de malice dans l'attention de la campagne. Satan, Ferdinand, cours avec les graines sauvages. Jésus marche sur les rondes purpurines. Sur les courbées, Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et détresse brune, au flanc d'une vague d'émeraude. Je vais dévoiler tous les mystères. Mystères religieux ou naturels. Mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagorie. Écoutez, j'ai tous les talents. Il n'y a personne ici et il y a quelqu'un. Je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des chants nègres, des danses de houri ? Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau ? Veut-on ? Je ferai de l'or des remèdes. Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, guérit. Tous venez, même les petits-enfants, que je vous console. Qu'on répande pour vous son cœur, le cœur merveilleux. Pauvre homme, travailleur, je ne demande pas de prière. Avec votre confiance seulement, je serai heureux. Et pensons à moi. Ceci me fait peu regretter le monde. J'ai de la chance de ne pas souffrir plus. Ma vie ne fut que de folie douce, c'est regrettable. Bah, faisons toutes les grimaces imaginables. Décidément, nous sommes hors du monde. Plus aucun son. Mon tact a disparu. Ah, mon château, ma Saxe, mon bois de saule. Les soirs, les matins, les nuits, les jours, suis-je là. Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil, et l'enfer de la caresse,
un concert d'enfer. Je meurs de lassitude, c'est le tombeau. Je m'en vais au vert, horreur de l'horreur. Satan, farceur, tu veux me dissoudre avec tes charmes. Je réclame. Un coup de fourche, une goutte de feu. Ah, remontez à la vie. Jetez les yeux sur nos difformités. Et ce poison, ce baiser mille fois maudit. Ma faiblesse, la cruauté du monde. Mon Dieu, pitié. Cachez-moi, je me tiens trop mal. Je suis caché et je ne le suis pas. C'est le feu qui se relève avec son bruit.
À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Je rêvais croisades, voyages de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. Je vantais la couleur des voyelles. A, noir, E, blanc, I, rouge, E, O, bleu, U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges.
Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis. Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livrée, grandit et fleurit, dansant et livrée, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne.
Donc c'était Colette Magny. Alors on a laissé Rimbaud tout à l'heure en disant qu'il voulait gagner de l'argent dans le trafic d'armes, hein, c'est ça? Alors il faut savoir qu'à cette époque, cette partie de l'Abyssinie était l'enjeu de luttes très importantes entre les différentes puissances occidentales, hein. Il y avait l'Italie, la France, l'Angleterre qui se disputaient un peu tous ces territoires et les souverains locaux, c'est là où va apparaître Ménélik, un des rois locaux, était plus ou moins le jeu de chacune de ces puissances occidentales. Donc Rimbaud, mais ça vous allez peut-être nous le dire, Rimbaud dut naviguer entre les différentes puissances pour mener à bien sa caravane. Donc on en est où?
Donc là on est en 1885, où il arrive à Tadjoura, donc dans le but de faire du trafic d'armes. En septembre 1985, il se voit proposer un marché par le français Pierre Labattu, un trafiquant d'armes établi au royaume abyssin de Ménélik.
Au choix, oui.
Donc, voyant l'opportunité de faire fortune et de changer le cours de sa vie, il n'hésite pas à s'associer avec lui pour acheter des armes périmées et des munitions en Europe. Après plusieurs contraintes, il décida de mener seul une expédition dangereuse jusqu'à Ankobé dans le but de vendre sa cargaison d'armes à Ménélik.
Alors, il faut peut-être dire que Labattu, entre-temps, meurt. C'est pour ça qu'il continue seul. Il pense que ça va être l'affaire de sa vie parce qu'il estime qu'il va gagner, je sais pas, quelque chose comme 80 000 francs alors qu'il en a 15 000 d'investis. Il y en a un donc qui a disparu, là, celui dont on a parlé tout à l'heure, là, qui est reparti, je ne sais pas si c'est un des frères Bardet, mais Labattu, lui, il meurt. Donc il se trouve tout seul aussi par la force des choses à faire cette expédition. Et c'est ça qui... Et en plus, on va voir que la veuve de l'abattu va rentrer dans l'affaire et compliquer la chose.
Bah, tous les créanciers vont lui tomber sur le dos, quoi.
Voilà. Donc, continuons,
Donc, est-ce qu'il
Kevin...
est livre ses fusils? Est-ce que Ménélic en prend livraison? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va pas vouloir le payer tout de suite. Et donc, Rimbaud va passer les mois qui suivent à essayer de rentrer dans ses fonds pour essayer de se faire payer ses fusils. Mais comme l'abattu avait des dettes et que Ménélic dit bah « Oui, mais moi, je ne peux pas te payer parce que l'abattu me doit plein d'argent, donc je vais enlever à ce que je te dois tout ce que me doit l'abattu. » Et donc commence pour Rimbaud, enfin se continue pour Rimbaud, une espèce de cycle infernal où il essaye de gagner de l'argent et puis finalement, ça ne se passe pas comme il le voulait toujours.
Cependant, à Arar, comme ailleurs, Rimbaud s'ennuie toujours et dans une de ses lettres à sa famille, il dit, je cite, « Je m'ennuie beaucoup, toujours. Je n'ai même jamais connu personne qui s'ennuyait autant que moi. » Il est également reconnu que Rimbaud a amassé une petite fortune au cours de ses expéditions africaines, qu'il a déposée en partie dans une agence bancaire du Caire lors d'un séjour en Égypte en août 1887. À cette occasion, il publie dans le journal Bosphore, égyptien, un long papier relatant son voyage dans le Shoah et critiquant les affaires françaises dans la Corne de l'Afrique. Dans les éditions datées des 25 et 27 août 1887, la semaine suivante, il se serait promené aux abords du Nil jusqu'à Louxor, où il aurait laissé un graffiti sur une colonne présente sur le lieu de naissance du pharaon Amenophis III. Graffiti retrouvé plusieurs décennies plus tard par Jean Cocteau.
En mai 1888, Tian, un trafiquant d'armes, envoya Rimbaud à Harar pour qu'il dirige un autre comptoir commercial qu'il venait d'y fonder. Il occupa ce poste jusqu'en 1891. Ensuite, il tomba gravement malade au cours de l'hiver 90-91. Et il dut liquider ses affaires à perte au printemps et quitter le Harar le 7 avril 1891. Il arriva à Marseille où, aussitôt arrivé, il fut admis à l'hôpital de la Conception où on lui amputa la jambe droite.
Alors on le verra un peu plus tard.
On est allé un peu vite
parce que, certes, il va tomber malade et puis il va avoir un chemin de croix pour revenir à Marseille parce que ça ne va pas être de tout repos étant donné qu'il ne peut plus bouger, il est pratiquement paralysé. À chaque fois qu'il fait un geste, et donc il va se faire construire une civière, il va dessiner lui-même sa propre civière que des porteurs vont porter à pied sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, et ça va durer presque 20 jours.
Et peut-être il faut dire qu'en fait, bon, quand vous avez parlé de l'ennui de Rimbaud à Harar, c'est donc après l'affaire Ménélic. Donc, il a raté complètement son coup avec Ménélic. Il s'est retrouvé, d'ailleurs, il s'en plaint dans les lettres à sa famille. Il dit, j'ai investi, enfin, il me reste que l'argent que j'avais investi dans l'argent de ses fusils. Et donc, il a passé 2 ans à s'épuiser dans un truc qui est à la fois très éprouvant physiquement, psychologiquement, parce qu'il n'arrête pas de s'affronter avec Ménélic. Il a la veuve de l'abattu qui n'arrête pas de venir l'enquiquiner pour qu'elle lui paye les dettes de son mari. Ménélic veut pas le payer, ainsi de suite. On lira peut-être tout à l'heure une lettre qui donne un peu le ton, parce qu'il essaye d'être diplomate quand même. Et au bout de tout ça, c'est l'échec total, quoi. On n'a même pas parlé, à un moment, il a même lancé l'idée de vendre des casseroles. Et c'est lamentable, il ne vend pas de casseroles, évidemment, parce qu'en Abyssinie, personne ne se sert des casseroles. Il a fait venir un stock de, je sais pas, 2000 ou 3000 casseroles qu'il ne vendra jamais. Donc il donne l'impression d'être quelqu'un qui rate tout le temps ses affaires et en même temps qui continue, coûte que coûte, à faire marcher ses affaires. Et à un moment, il y a sa jambe, lui, le marcheur permanent, sa jambe dit non parce que, quand il était donc à Harar, il a continué lui-même à régler des tas d'affaires en se déplaçant lui-même à cheval ou à pied. Et qu'à un moment, il a une espèce de... Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Il pense que c'est simplement une synovite ou quelque chose comme ça.
Comme sa sœur.
Comme sa sœur, d'ailleurs. Sauf qu'elle, c'était une synovite pulmonaire. Mmh. Et lui, il pense qu'il a que ça. Bon, au début, comme c'est un homme qui est assez dur au mal, qui ne se plaint pas, qui ne manifeste pas, il pense que c'est un rien. Et puis, à un moment, il dit « Mon genou est gros comme une courge ». Donc, il ne peut plus du tout se déplacer. Et quand même, il essaie de faire marcher les choses. Et on essaie de le faire rendre à l'évidence qu'il faut qu'il parte. Et c'est à ce moment-là donc qu'il y a cette espèce de calvaire à travers le désert porté sur une civière. Il dit c'est terrible parce que les porteurs sont épuisés eux-mêmes et quand ils arrivent en fin de course au bout de la journée, ils le jettent par terre. Et pour lui, c'est des douleurs terribles.
Et on va peut-être lire des correspondances de Rimbaud avec Loras Mekkonen qui était le représentant de Ménélic.
À son Excellence Loras Mekkonen, gouverneur du Harar, Marseille, 30 mai 1891. Excellence. Comment vous portez-vous? Je vous souhaite bonne santé, complète prospérité. Que Dieu vous accorde tout ce que vous désirez. Que votre existence coule en paix. Je vous écris ceci de Marseille, en France. Je suis à l'hôpital. On m'a coupé la jambe il y a 6 jours. Je vais bien à présent et dans une vingtaine de jours, je serai guéri. Dans quelques mois, je compte revenir au Harar pour y faire du commerce comme avant et j'ai pensé à vous envoyer mes salutations. Agréez les respects de votre dévoué serviteur, Rimbaud.
Bulletin de la Société de Géographie de Marseille, premier trimestre 1888. Nouvelle des voyageurs. Un négociant français, M. Arthur Rimbaud, s'est rendu de Tadjoura au Shoah en traversant le pays des Danakil et profitant de la conquête des pays Galas par le roi Ménélik, est revenu à la côte par une route directe d'Antoto à Harar qui traverse le pays des Itougalas. Les renseignements qu'il donne sont moins enthousiastes que ceux des précédents voyageurs. C'est ainsi qu'il met en doute la valeur rémunératrice de l'exploration des gisements de sel du lac Assal que des Français voulaient tenter au moyen d'un chemin de fer à voie étroite. Il paraîtrait que les difficultés de terrain sont trop grandes. D'après lui également, l'Aouache ne serait pas navigable, même à l'époque des plus hautes eaux, et cela contrairement à l'opinion émise par Soleillet et le capitaine Longbois. La route la plus directe pour gagner le Shoah serait celle de Zaïla et de Harar. On évite ainsi le territoire des Danakil, toujours disposé au pillage, et on traverse des terres relativement fertiles. Le pays des Itougalas forme un haut plateau d'environ 2500 mètres d'altitude. Il possède d'excellents pâturages, des forêts étendues et, vu sa fécondité et son doux climat, il conviendrait à la colonisation européenne. L'itinéraire parcouru par M. Rimbaud a été levé par notre compatriote M. Jules Borelli, son compagnon.
Comment te portes-tu ? Pour moi, Dieu merci, je vais bien. J'ai appris avec étonnement et compassion qu'on avait été obligé de te couper la jambe. D'après ce que tu m'as dit, l'opération a bien réussi. Dieu soit loué. J'apprends avec plaisir que tu te proposes de revenir au Harar pour continuer ton commerce. Cela me fait plaisir. Oui, reviens bien vite, en bonne santé. Je suis toujours ton ami. Écrit à Harar le 12 juillet 1891, Ras Mekonnen.
Lettre au directeur des messageries maritimes. Marseille, le 9 novembre 1891. Monsieur le directeur, je viens vous demander si je n'ai rien laissé à votre compte. Je désire changer aujourd'hui de ce service-ci, dont je ne connais même pas le nom. Mais en tout cas, que ce soit le service d'affinard. Tous ces services sont partout, et moi, impotent, malheureux, je ne peux rien trouver. Le premier chien dans la rue vous dira cela. Envoyez-moi donc le prix des services d'affinard à Suez. Je suis complètement paralysé, donc je désire me trouver de bonne heure à bord. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs.
Sur cette sonnerie de classe se termine donc cette seconde émission consacrée à une approche d'Arthur Rimbaud. Une émission que nous avons préparée avec Yves Flanck, Patrick Vendrin et moi-même Michel Arbatz tout au long de l'hiver-printemps 2011 dans la classe de 3e de Madame Cuchard-Bouvier au lycée Louise Michel, au collège Louise Michel de Ganges et également avec Anita Messaoui, documentaliste dans ce même collège. Cette opération a pu se faire grâce à l'aide aussi de la direction départementale du livre et de la lecture de l'Hérault. La musique qui a accompagné tout au long de ces 2 heures Le parcours d'Arthur Rimbaud, c'était celle de Steve Reich, musique pour 18 musiciens. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur Radio Clapas, sur son site, également sur le site www.michelarbatz.com où elles sont en archive. Vous pouvez aussi inviter la BIP à venir dire des textes dans vos lieux de travail, vos lieux de loisirs, vos lieux de paresse, car l'humanité se transmet de bouche à oreille. À bientôt.